Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit la tigresse de la Côte-Nord, Lorraine Richard, bouillante députée péquiste depuis 2003, qui a annoncé aujourd'hui qu'elle ne serait pas candidate aux élections générales de 2022. Madame Richard revient sur son parcours et explique pourquoi, selon elle, une enquête publique sur l'hécatombe dans les CHSLD s'impose. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne. Mais bonjour Geneviève Lajoie.
Bonjour Antoine.
Geneviève remplace encore cette semaine Rémi Nadeau. Elle est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Point de presse de 14 heures de François Legault. Geneviève, il a dit qu'il n'avait aucune mesure sanitaire. Je pense qu'il va décevoir bien du monde.
Ah! Oui, tout le monde, assurément. La phrase qu'il faut retenir de ce point de presse-là, il n'y avait rien annoncé, là. Vraiment, le premier ministre n'avait rien à annoncer aujourd'hui.
C'est ça.
Ni le ministre Christian Dubé. Donc, la phrase à retenir de M. Legault, je pense, c'est « Avant d'annoncer des assouplissements, je veux être certain qu'on puisse le permettre. » Ça sent le chat échaudé craint l'eau froide. Tu ne trouves pas, Antoine?
Oui, vraiment.
Parce qu'on se souvient qu'avant les fêtes, il avait ouvertement manifesté son désir de pouvoir être à 20 ou à 25 dans le temps des fêtes. Puis finalement, il a dû reculer et pas à peu près. Hein? On comprend que maintenant, on a le droit que d'être en bulle familiale. Donc, j'ai cette impression, en tout cas, je ne sais pas si tu la partages, mais j'ai cette impression que là, M. Legault, il ne veut absolument pas se faire accuser d'annoncer quelque chose, de donner de l'espoir, et d'être obligé de décevoir après.
Oui, parce que ça a été assez dommageable, tout ça, surtout quand il a donné de l'espoir, puis ensuite, il a dû ramener le couvre-feu.
Tout à fait. Puis là, on sent quand même de plus en plus, et je pense que le gouvernement, évidemment, en est très conscient, le ras-le-bol de la population là, qui atteint, là, depuis le début de la pandémie, on sent que c'est vraiment un ras-le-bol, un des plus hauts qu'on a vécu. On avait ce matin à TVA Nouvelles, justement, une pâtissière du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a décidé d'ouvrir, elle, sa salle à manger. Elle n'en peut plus. Puis la phrase que je retiens de cette pâtissière et qui probablement rejoint beaucoup de gens, elle dit, j'ai toujours payé mes impôts et ce n'est pas de ma faute si le système est à terre.
Oui, alors, elle était très éloquente.
Exactement. Puis j'imagine qu'il y a beaucoup de Québécois qui se disent ça actuellement parce que si on garde les mesures sanitaires, c'est à cause du système de santé qui est à bout de souffle. Donc, mais sauf qu'ici, le système de santé est payé par les impôts des contribuables. Il ne faut pas oublier ça, contrairement aux États-Unis ou ailleurs. Donc, c'est sûr que ça fait plus mal parce qu'effectivement, on paye chaque année de notre poche pour le système de santé. Et puis là, ben, le système de santé nous lâche. Il est en train de nous lâcher complètement dans cette cinquième vague. Là.
Stéphanie Ariot, c'est le nom de la pâtissière du Saguenay, de Jonquière, en fait. Elle va peut-être demeurer une sorte de symbole du ras-le-bol.
Probablement. Puis, elle avait un petit accent français, si je ne m'abuse.
Oui.
Ça nous permet peut-être de parler justement.
T'es bonne pour les repérer, toi.
Oui, exactement. J'en ai quelques-uns proches de moi dans ma famille. Mais c'est intéressant de comparer justement avec l'étranger. Et puis, on sent de toute façon que M. Legault, il l'a senti, il l'a reconnu. Il y a de la pression, là, qui vient non seulement de l'Ontario, qui vient d'annoncer justement des assouplissements qui vont entrer en vigueur à la fin janvier, mais aussi de l'Europe. Habituellement, là, on regarde beaucoup ce qui se fait en Europe et on applique à peu près ce qu'appliquent les Européens depuis le début. Hein. On le sait, de toute façon, ce qui se passe en Europe, 3 semaines, 1 mois plus tard, ça se passe ici. Hein. Depuis le début de la pandémie, c'est à peu près ça.
En même temps, là, c'est complexe, Geneviève, parce que c'est la France qui refuse de faire comme l'Angleterre, c'est-à-dire, en Angleterre, Boris Johnson a levé à peu près toutes les mesures sanitaires, un peu ce que demandait le chef du Parti conservateur québécois hier. Puis, mais en Autriche, tu m'apprenais tout à l'heure que là, on va dans le sens peut-être opposé. On est extrêmement, on resserre la vis extrêmement. Raconte-nous.
Oui, bien, si le président français Emmanuel Macron voulait emmerder les non-vaccinés, l'Autriche, c'est pire. Ils viennent d'adopter aujourd'hui même une loi sur la vaccination obligatoire pour la COVID qui va être en vigueur à partir donc du 4 février. Le premier pays européen est probablement dans le monde, là. J'ai pas fait la vérification partout dans le monde, mais...
Bien, moi, je me suis entretenu hier avec le ministre Jean Boulet, qui me disait il n'y a aucun pays dans le monde jusqu'à maintenant qui a ordonné la vaccination obligatoire. Certains parlaient d'Israël, mais c'est pas vrai. La vaccination n'est pas obligatoire actuellement en Israël, m'a-t-il dit. Je prends la parole du ministre, j'ai pas contre-vérifié.
Bien, en tout cas, là, le premier, ça sera donc l'Autriche.
C'est ça.
Et, les amendes là-bas, si t'es pas vacciné, les amendes qui s'appliqueront, c'est de 600 à 3600 euros. Hein, c'est, ça frappe l'imaginaire quand même et ça frappe le portefeuille.
Vraiment.
Donc, les gens qui... une amende peut être levée, par contre, si les contrevenants se font vacciner dans les 2 semaines. Tu as 2 semaines pour prendre rendez-vous puis te faire vacciner, au moins pour ta première dose, et là, tu n'as pas à payer les amendes. Donc, tout ça est très intéressant, mais tu parlais de l'Angleterre, oui, exactement, l'Angleterre qui va lever toutes les mesures sanitaires, même le masque. Même le masque, oui. Antoine, ça, c'est pas rien, parce que ça, on sent pas que c'est ici.
On a-tu hâte?
Oui, mais on sent pas que ça va partir rapidement, là,
mais non.
Pas au Québec, là. Et puis, l'Angleterre, je voulais te parler un peu des assouplissements à caractère culturel. On sent qu'il y a quand même des différences dans les assouplissements,
oui.
Même dans les confinements. Par exemple, en France, les restos n'ont pas fermé cette cinquième vague. Là, hein.
Ah non.
C'est pour un Français, là, tu ne peux pas fermer les restos. Là. Il y a quelque chose de... Ils l'ont déjà fait là, depuis le début de la pandémie,
mais oui.
c'est quelque chose qu'ils ferment vraiment en dernier lieu.
Moi, j'étais en France en mars 2020. Pour un tournage, puis quand je suis rentré, le jour où on est rentré en catastrophe, le 14 mars, là, on a appris que les Français, la France, fermait ses terrasses. Et là, je me suis dit, OK, l'heure est vraiment grave.
Oui, exactement. Puis même, c'est pareil, en Angleterre, jusqu'à maintenant, dans les derniers mois, s'il y avait plusieurs mesures sanitaires d'appliquer, plusieurs restrictions, Il y a une catégorie d'institutions qui n'en avaient pas, c'était les stades de soccer.
Ah.
Ça, de football pour nos auditeurs européens.
Oui, oui.
Mais ça, là, il y en a plein de stades en Angleterre et c'est un sport extrêmement apprécié. 60 000 personnes dans le stade, dans ce cas-ci, là, souvent masquées, là, contrairement aux États-Unis, mais quand même, et jamais il n'y a eu de restrictions sur... ou à peu près pas sur le nombre de personnes dans les stades. Et encore récemment, là, moi, je regardais un match de soccer en Angleterre et tout. C'était plein, là. C'était plein à craquer. Alors qu'ici, on voit que les Canadiens, à moins que je me trompe, je t'avoue que je ne regarde pas tant de Canadiens, là, mais c'est à huis clos encore.
Mais oui.
Ça a repris à huis clos, là. Alors que là-bas, ça, c'est impensable. Ça, c'est une
restriction. Il y a les matchs de football, de la NFL, là. Et les stades sont pleins, les gens n'ont pas de masque.
Non, effectivement. Donc, il y a quand même, c'est ça, il y a des différences culturelles qu'on remarque, là, même dans les assouplissements.
Ou des différences dans les systèmes de santé, comme tu le soulignais plus tôt. Tu sais, c'est quand le système de santé est public, il y a une espèce d'obligation, de pression sur les dirigeants pour faire quelque chose. Peut-être que quand c'est privé, ben là, c'est à chacun de se débrouiller avec ses problèmes, peut-être. Je sais pas, j'aimais ça comme hypothèse à partir de ce que tu disais tout à l'heure.
Oui, aux États-Unis, par exemple, il y a plein d'hôpitaux privés. Là. Dans ce cas-là, je ne sais pas qu'est-ce que ça change sur le terrain, mais en tout cas, visiblement, eux, ils ne s'empêchent pas de faire certaines choses en raison de leur système de santé qui est à bout. Là. Par contre, on l'a déjà vu, là, dans les derniers mois, dans la première année de pandémie, Il y a eu des moments où même les États-Unis, on voyait les hôpitaux débordés. Là.
Ouais.
Mais en tout cas, depuis, je n'ai pas vu de reportage autre là-dessus. Je sais que il y a New York là, qui a été particulièrement frappé là, par cette cinquième vague-là. Mais à part ça, c'est sûr que le fait qu'il y ait des hôpitaux privés, est-ce que ça change la donne sur le terrain, évidemment?
Oui. Parlons des sports maintenant. Il y a Dominique Anglade, après le maire de Québec, Bruno Marchand, qui réclame la levée, justement, là, pour les joueurs, pas pour l'assistance, mais pour les joueurs et joueuses de différents sports, ceux qui pratiquent. Ouais, ben...
Mais plus tôt cette semaine, je m'étais entretenue d'ailleurs avec le député libéral Alérico Ciccone, l'ancien joueur de hockey,
oui.
qui demandait finalement la même chose que Mme Anglade. Là. Parce que, oui, les jeunes retournent à l'école, ont repris les cours, mais il y en a beaucoup qui vont à l'école que pour faire du sport. Là. Et il y en a que ça aide énormément dans leur motivation pour leurs études. Là. Donc, ça, il ne faut pas négliger ça. Et il ne faut pas oublier que les adolescents, notamment, sont vaccinés à presque 97 %, je pense.
Oh.
Donc, le sport, et rappelons que le sport, c'est quelque chose qui est couvert par le passeport vaccinal. Hein. Tu ne pouvais pas faire du sport, du parascolaire, ni au civil, si tu n'avais pas ton passeport vaccinal. Ça a convaincu beaucoup de jeunes de se faire vacciner. Mais là, ils se sont fait enlever cet objectif-là qu'ils Mais avaient oui. atteint. Donc là, la pression, elle est beaucoup sur cet aspect-là. Tu parlais du maire Bruno Marchand, qui est un sportif lui-même et qui
oui.
demande ça. J'ai vu que tout récemment aussi, il y a la mairesse de Sherbrooke qui demande la même chose. Évidemment, là, il y a aussi la détresse psychologique des gens qu'il faut mesurer à ce moment-ci. On a senti que le directeur national de santé publique aujourd'hui, Luc Boileau, là, comprenait bien là, qu'il y avait de la pression pour ouvrir les sports, mais bon, on comprend aussi que M. Legault ne veut pas annoncer quelque chose et qu'après ça, il soit obligé de reculer.
Ben, merci beaucoup, Geneviève Lajoie.
Merci.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
Il n'y a peut-être pas de tigre sur la Côte-Nord, mais il y a au moins une tigresse, Lorraine Richard, députée péquiste depuis 2003, qui a annoncé ce matin qu'elle ne serait pas candidate en 2022. Elle est au bout du fil. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pourquoi on vous appelle la tigresse déjà?
peut-être parce que je suis très colérique. Ça m'arrive de mettre le poing sur la table.
À l'Assemblée nationale, c'est vrai que des fois, vous êtes très, très énergique.
Oui, mais moi, je ne suis pas celle, et je ne serai jamais, j'espère, qui fait semblant. Quand je défends une cause, que je défends quelqu'un, je le fais avec mes tripes. Puis quand c'est une situation que je la trouve pas correcte, que je la trouve abominable, là, ça vient me chercher. Ça vient me chercher, puis... écoutez, être appelée la tigresse, là, comme on a commencé à me surnommer ainsi, c'est Bernard Drainville.
Ah oui, OK. Alors,
Bernard Drainville a goûté à la tigresse à quelques reprises.
Sur quel sujet?
Oh, sur plusieurs sujets. Ça nous arrivait souvent, Bernard et moi, là, d'avoir des discussions.
Enflammées.
À un moment donné, il avait dit ça, il disait, t'es une vraie tigresse. ça a resté un peu.
Pourquoi vous ne vous représentez pas en 2022?
Mais C'est déjà en 2018, disons que l'énergie était moins au rendez-vous, puis je me suis posé la question, même dans mon entourage, on disait, oh, t'en as fait assez, tu devrais bien prendre soin de toi. Moi, je vis à trois endroits différents des fois, c'est pas facile.
Oui.
J'ai quand même plusieurs années, là, députée de Grand Comté. Je me disais, non, je suis pas prête, j'ai encore cette passion, j'adore ce que je fais. Donc, j'avais décidé de solliciter un nouveau mandat, mais celui-ci a été vraiment très difficile, très, très difficile.
Mais oui, avec la COVID.
Est arrivé en juillet, diagnostic de cancer.
Ah oui, OK.
Oui, qui a fait en sorte que je dis, là, non, il faut vraiment que je ferme cette partie de l'histoire de ma vie, que je ferme le livre et que j'annonce que je ne solliciterai pas de mandat à l'élection de l'automne 2022. Mm-hmm.
Bien, on vous souhaite de la santé, Lorraine. Je me demandais, vu qu'on est à l'heure des bilans, mais c'est tout un chapitre, là, c'est presque 20 ans de votre vie, quelle réalisation précise vous rend la plus fière?
Mais il y en a eu beaucoup, hein. Il y en a eu beaucoup. Et je savais que cette question-là viendrait. Puis des fois, il y en a eu, puis c'est pour des raisons différentes que j'en suis fière. Tu sais, je veux dire, d'obtenir le quartier général à Abreu-Saint-Pierre, là, du Hydro-Québec, qui implante son quartier général à Abreu-Saint-Pierre suite au projet de la rivière Romaine, tu sais, pour certaines personnes, ça veut dire quoi, là?
Mm-hmm.
Mais c'était un dossier extrêmement important, là. C'était un dossier où j'ai eu droit à des manifestations de gens que je connaissais très, très bien, là, qui ont manifesté en 2012 sur un gouvernement du Parti québécois. Puis je leur avais dit, vous allez l'avoir, parce que déjà, Pauline Marois, première ministre du Parti québécois, avait dit, Lorraine, si on vient, même dans l'opposition, on m'avait dit, Lorraine, si on vient au pouvoir, oui, on va aller de l'avant avec le quartier général d'Hydro-Québec à Abreu-Saint-Pierre. Parce qu'il faut savoir que c'était Rivandale à l'époque qui était PDG, puis c'était Jean Charest, premier ministre. Et
oui.
Même Clément Gignac, qui m'avait, je le souligne en passant, avait plaidé ma cause, avait plaidé la cause des Nord-Côtiers pour l'implantation du quartier général. On ne l'avait pas eu sur les libéraux, de l'avoir obtenu. Ça, j'en suis fière, mais d'avoir été capable de remplir les promesses que j'avais faites aux citoyens, citoyennes de toute ma région, mais surtout à une certaine élite libérale de mon coin de pays, où je leur avais dit, je vous promets que je vais obtenir l'agrandissement de Gustave Gauvreau si le PQ vient au pouvoir. Je vous promets que le centre de détention de cette île, que ça fait des décennies que vous attendez, vous allez l'avoir. Je promets qu'avoir une piscine à Havre-Saint-Pierre, ils vont l'avoir.
Mm-hmm.
Puis l'agrandissement du théâtre Graffiti Plant. Donc, les 18 mois là, du Parti québécois, là, d'avoir emmené 300 millions dans ma région, puis vous le savez, à l'époque, là, on n'avait pas de surplus budgétaire au gouvernement à ce moment-là. Mais ça, j'en suis fière. Puis j'en suis fière également parce que j'avais réussi à convaincre, mais c'était pas... J'avais pas dû plaider longtemps. Il avait compris, tu sais, quelqu'un comme Stéphane Bédard, là, qui était au Conseil du Trésor, Nicolas Marceau, qui était aux finances, la première ministre tout d'abord, puis Sylvain Gaudreau, là, je me souviens, avec Sylvain, là, pour le complexe aquatique à Havre-Saint-Pierre, il disait, oh, Lorraine, les finances publiques. Puis là, je l'ai donné là, j'étais là, ça
faut. Mais la Côte-Nord.
Il n'aura jamais. Je suis fière de ça.
La Côte-Nord, Lorraine Richard, depuis 2003, depuis votre première élection, comment elle a évolué? Parce que quand je regarde le dernier bilan migratoire, il y a beaucoup de régions qui profitent d'une espèce d'exode urbain, c'est-à-dire que les gens quittent la ville pour aller s'installer en région. Or, la Côte-Nord a quand même vu son bilan être réduit de 250 personnes au profit du reste du Québec. Est-ce que ça, c'est pas un signe... décourageant un peu. On pensait qu'il y avait une revitalisation des régions. La Côte-Nord, touristiquement, là, on a beaucoup entendu parler dans les deux étés COVID qu'on a vécu. Donc, dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas encore des gros nuages sur la Côte-Nord?
Oui, puis c'est malheureux, hein, parce que souvent, les gens qui voudraient venir s'établir chez nous, ils ne connaissent pas la Côte-Nord. Vous, on ouvre des postes. Je vous donne un exemple pour attirer des médecins. Oui, c'est ça. ils la connaissent pas, ou ils ont une mauvaise perception. Pourtant, les médecins qui viennent, écoutez, il y en a beaucoup là, qui ont élevé leur famille, hein, qui ont acheté des maisons, qui sont demeurés dans notre coin de pays. Mais c'est difficile. Et ces dernières années, ça l'est tout autant. Parce que la Côte-Nord, c'est une région principalement minière. Hein.
Oui.
On regorge de ressources naturelles, entre autres en forêt, hydroélectricité, mais les minières. Et il s'est développé au cours des dernières années une mentalité de certaines minières, hein, moins investir dans des logements, je pense à Fermont, entre autres. C'était fly-in, fly-out.
Oui.
Il nous a pas aidés. Là, moi, mais par contre, je constate un certain changement. Moi, je le vois avec la compagnie ArcelorMittal, le nouveau PDG qui a plus à cœur d'accompagner une ville comme Fermont, de vouloir qu'Arcelor s'implique, que ce soit dans les CPE, que ce soit dans du logement. Mais ça reste très difficile encore. Puis les deux dernières années, mais il n'y a pas eu de gros projets. On vit souvent de gros projets, nous autres. Hein? Donc, ça a été, moi je disais encore récemment, hein, le premier ministre a dit souvent que le Québec est sur pause, tout est sur pause. Il n'y a pas de nouveau développement. Fait que oui, les jeunes quittent hein, pour les études, souvent ne reviennent pas. Et donc, on a aussi des personnes qui prennent leur retraite puis qui vont rejoindre leur enfant, leurs petits-enfants. Donc, ça aussi, ça joue contre nous, là.
Parlons des aînés maintenant, parce que vous êtes porte-parole en ce domaine-là au Parti québécois depuis un bout de temps. Aînés, proches aidants, maintien à domicile aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce que la commissaire au bien-être, Castonguay, a déposé hier comme rapport sur l'hécatombe dans les CHSLD?
Bon, écoutez, je respecte le travail de la commissaire Castonguay. Bon, ce que j'en ai conclu, là, moi personnellement, de ce que j'ai entendu, elle veut un changement. Bon, elle se dit, bon, si on avait eu des meilleurs protocoles, bon, elle pense aussi qu'au niveau de certains CHSLD, de RPA, il devrait avoir plus de soins qui soient offerts. Elle dit également, ça j'étais fort contente de l'entendre, qu'il faudrait, bon, déployer plus de services pour maintenir les gens à domicile. Bon. Au-delà de tout le discours et du rapport qu'elle a, puis avec de bonnes recommandations, puis tout, là, je me suis dit, c'est pas ça, là, même s'ils changeaient, là, vous savez, des politiques, là, qui ont été faites, hein, des rapports de politiques tablettés, puis ça donne pas grand-chose, là. Ça donne pas grand-chose quand on les met pas en application. Au-delà du rapport de la commissaire à la santé au bien-être, Mme Castonguay, du rapport de la coroner, de la protectrice du citoyen, il reste. Puis ça, je l'ai dit ce matin, puis je le redis. Une société qui ne s'occupe pas de ses enfants et de ses aînés, elle va nulle part. Il faut que les aînés deviennent la grande priorité, tout gouvernement confondu. Et moi, je veux bien là, que nos espères, puis il y a le mérite, puis ils sont utiles, qu'on fasse des protocoles. Tout. Moi, vous savez, je suis infirmière auxiliaire de formation. J'ai travaillé dans un plus petit centre de santé au Québec, à Saint-Pierre.
Ouais.
Je vous dis que j'y retourne. On est bien soigné. Oui, mais c'est plus du tout comme c'était auparavant, là. Ce n'est plus du tout la même médecine. Dans la formation des infirmières et tout ça, on a été beaucoup vers des infirmières bachelières. Et souvent, moi, je les ai vues, là, ces gens-là, c'est qu'ils faisaient, ils s'en allaient dans les bureaux, là. On n'avait pas pour soigner les malades, là.
Ah oui.
Les infirmières cliniciennes, là, de plus en plus, il faut être capable d'en former. Mais je suis demeurée quand même, je vous dirais, bien honnêtement, sur mon appétit. Tous ces rapports-là, on propose plein de choses pour changer les choses. Pour changer les choses, là, mais il faut comprendre où il y a un problème. Et je m'excuse sincèrement, mais dans tout ce qui s'est passé dans l'hécatombe, qui s'est passé dans certains CHSLD avec des milliers de décès, là, on connaît pas tous. On sait qu'ils sont morts du COVID. Beaucoup ne sont pas tous morts du COVID. Il y en a qui, malnutrition, laissés à eux-mêmes.
Ouais.
Il faut vraiment s'attarder à la cause. Il faut la comprendre pour être capable de la changer. Puis il faut aller aussi au fond des choses.
Mais est-ce que c'est pas ça que toutes les études, les enquêtes qu'on fait vont nous amener à comprendre? Parce que là, on a des propositions de Mme Castonguay, on va voir celle de la coroner qui va nous expliquer ce qui s'est passé. Il y a eu celle de la protectrice du citoyen. Il me semble qu'avec tout ça, on a pas mal ce qu'il faut. Parce que là, une autre commission d'enquête générale, est-ce que ça va pas, encore une fois, enrichir bien les avocats? Puis les commissions d'enquête, on le sait, c'est plus la même chose maintenant. Et dans les années 70, Clich et compagnie, eux autres pouvaient émettre des blâmes, puis tout ça, là. Mme Charbonneau n'a même pas émis de blâmes. En tout cas, les dernières commissions ont tourné à l'eau de vaisselle un peu. Est-ce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut, dans le fond, pour faire ce qu'une commission d'enquête, finalement, nous amènera à faire avec, quoi, 70 millions plus tard?
Bon, peut-être pas 70 millions plus tard, là. Ça dépend du mandat qu'on y donne.
Bien, Charbonneau a coûté 40 millions, là. J'imagine que pour les deux ans de COVID, si on enquête sur tout, absolument tout, on finira plus.
Ça, je veux bien, mais c'est quand même pas anodin puis miné, mais ce qui s'est passé au Québec, là.
Mm-hmm.
Bon. Moi, je veux bien, là, je respecte les différentes enquêtes, c'est des personnes, écoutez, que je tiens en haute estime, là, la protectrice du citoyen, j'ai discuté avec elle personnellement. Bon, ils mettent le doigt sur des faits, sur des choses qu'ils veulent changer, OK? Moi, quand j'ai écouté Mme McCann, là, OK, ministre de la Santé, là, cette ministre de la Santé, dire, il y a eu une note. Je pense que vos collègues journalistes, c'est quelqu'un qui l'a lu, hein? Non? Il a dit, moi, je comprends.
Ah oui, je l'ai lu, cette lettre-là, du 23 janvier, je pense, oui.
Voilà, il a 2020. Dit, je comprends rien à ça. C'est souvent ça, là, qui se passe, là. Hein? Mm. Il y a des protocoles qui doivent être respectés. Ils ne sont pas respectés. Des fois, c'est fait très, très, de façon très technique, très bureaucratique.
Mm-hmm.
Dans le sujet qui nous préoccupe, puis qui a interpellé tous les Québécois, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Mmh. Début de la pandémie, la première vague, pourquoi là? Pourquoi? Est-ce qu'on aurait pu éviter ces milliers de morts? Moi, je ne veux pas accuser personne.
Mmh.
Loin de moi, cette idée-là, là, je veux bien qu'on se comprenne. Mais il y a quelqu'un dans la chaîne de commandement. Hein? C'est ça, ça s'appelle d'avoir des responsabilités ministérielles. Puis ça s'appelle aussi quand t'es PDG d'un CIUS.
Mais Mme Richard, quand même, est-ce qu'on n'aurait pas un autre...
Énorme, ouais. C'est ça.
Mais on aurait un autre témoignage de François Legault qui nous dirait encore qu'on aurait aimé arrêter la mobilité de certaines infirmières ou préposées, mais on pensait que dans la balance des inconvénients, c'était mieux d'avoir des demi-employés dans des CHSLD que d'avoir des résidents qui ne recevaient pas du tout de service. Je le cite au texte, là. Mais il me semble que c'est ça, c'est là la cause du problème, on le sait déjà.
Et là, je vous emmène, vous allez me comprendre, là. Vous avez parlé beaucoup, pourquoi une enquête publique indépendante qui va coûter des millions?
Oui.
Ça va peut-être coûter des millions, là. Mais jusqu'à présent, là, ultimement, il revenait au gouvernement, ils ont eu des signaux.
Mm-hmm.
De déployer. On le voit, on l'a vu, là. Même la coroner, elle s'est fâchée. Là. Elle s'est fâchée, là, puis elle a dit, là, quelque chose ne marche pas. Elle a dit, moi, j'avais avisé. On a des personnes là, responsables de CHSLD privés qui ont dit, on a demandé de l'aide. Là, oh, la ministre ne savait pas, là, le PM, il savait. Puis je crois sincèrement, parce que je pense sincèrement que si le premier ministre François Legault avait su réellement ce qui se passait dans les CHSLD, il serait intervenu.
OK.
Quelqu'un qui n'a pas fait son travail, s'il se reproduit une autre crise de ce genre, hein, okay. Parce qu'on ne veut pas que ça se reproduise,
ouais.
Combien même vous auriez les meilleurs protocoles, les meilleures pratiques, ça ne fera pas en sorte que dans une crise, dans une gestion de crise où on gère là, hein, à vitesse grand V, là, que ça ne se reproduira pas. Parce que souvent, c'est rendu très, très... La santé, là, c'est un très, très gros ministère. Hein?
Mm-hmm.
Je m'excuse, là. Il est rendu, là, très, très gros. Hein?
Mm-hmm.
Notre système de santé, il est à terre. Oui, la COVID, il y est pour beaucoup. Je m'excuse, là. Il était à terre pas mal avant. Ouais. Pas mal avant. On a une hiérarchie épouvantable dans ça, là. Moi, je le constate dans ma région. Hein? Moi, là, pour un petit CHSLD, là, j'ai parlé, là, puis Hein, c'est pas le plus beau, c'est le plus gros 6 là, au Québec. Là. J'ai parlé à 7 personnes pour savoir si des personnes âgées pouvaient sortir ou pas, parce qu'il n'y avait pas de réponse. Fait que moi, je transpose ça là, dans les grands centres. Là. Il y a une hiérarchie, c'est très gros, c'est très bureaucratisé. Et lorsque toutes ces enquêtes-là, et tout, ils mettent le doigt dessus, là. Pas une note, les protocoles ont mal été observés, il aurait dû, bon, voici. Par contre, t'as des gens qui disent, ouais, mais là, on se fiait que, ah, ils connaissaient ça aux autres, la désinfection, puis là, on pensait qu'il y avait assez de blouses, puis qu'il y avait assez de masse suffisante. Combien vous auriez les meilleurs protocoles, là, s'il n'y en a pas de masse suffisante, là, puis que ça n'en prend, là, puis parce qu'il faut qu'il check un avion, là, pour aller en chercher, là, ailleurs, à l'extérieur du Québec. Qui pensez-vous qui va le faire?
Ben oui.
Ben voilà.
Fait que moi, Lorraine... je dis,
Il y a des informations
qui circulent pas, ouais.
Qui n'ont pas été rendues à la cellule de crise. Mm-hmm. Parce que je me dis, si toute la bonne information avait été vraiment très bien rendue, les gens de la cellule de crise en avaient pris connaissance, ils auraient agi, là.
Lorraine, là, je vois le temps filer. Je veux pas vous laisser sans vous poser une dernière question un peu dure. Est-ce que le Parti québécois va survivre aux prochaines élections?
Écoutez, moi, je le dis sincèrement, Antoine, là. Le Parti québécois, c'est un grand parti, puis il a fait beaucoup pour le Québec. Puis je dis, au-delà des hommes, des femmes qui vont pas t'en passer, puis qui vont te passer, il va en avoir d'autres qui vont s'investir au Parti québécois, il demeure un grand parti. L'option de la souveraineté ne mourra jamais. Quelle forme ça prendra? Comment? Quelle sorte de véhicule? Je ne le sais pas. Ce que je trouve...
Donc, vous n'êtes pas sûr qu'il survive, c'est ça?
Oui, il va survivre. De quelle façon, je ne sais pas, mais il va survivre. Et je trouve malheureux, très malheureux, qu'on ait décidé de délaisser ainsi le Parti québécois. Regardez-nous attentivement la petite équipe que nous sommes, les propositions qu'on fait. C'est pas rien, là. C'est pas rien. Il y a des hommes et des femmes qui y croient, comme moi. Puis, non, moi, je dis, ça peut changer, écoutez, mais ça va, il va rester quelque chose, parce que il y a cette âme-là au Parti québécois qui est toujours vivante, cette flamme-là que j'espère ne s'éteindra jamais, mais ça peut prendre d'autres formes, on ne sait pas. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Comme on dit, la politique n'est pas ce qu'elle était auparavant.
Bien.
Je ne pense pas qu'on pourra dire le Parti québécois est vraiment mort, la souveraineté est vraiment mort. Je ne pense pas que ça va arriver.
Merci beaucoup pour cet entretien, Lorraine Richard. On vous souhaite de la santé puis du repos.
Merci beaucoup, M. Robitaille.
Au revoir. De toute façon, on se voit d'ici, d'ici l'automne.
Oui,
au revoir. Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, là. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.